Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour L'Esprit du Livre, une émission qui vous présente chaque mois quelques livres de parution récente qui concernent directement ou indirectement la foi chrétienne. Et bien sûr, d'abord, pour vous présenter un premier ouvrage, voici le père Roger Willem.
C'est un premier livre, Vivre notre mort en chrétien, éclairage théologique pour la fin de vie d'Alexandre Ganoschi, aux éditions Lucius, paru en octobre 2016. Voici en 12 courts chapitres une lecture théologique de la fin de vie, une réflexion sur l'expérience de la maladie s'enrichit ici d'une analyse des conditions de son accompagnement médical, psychologique, spirituel et pastoral. Octogénaire, l'auteur atteint d'un type de cancer rare, ce qui lui a valu plusieurs interventions chirurgicales. Il parle d'expérience. Son étude met en synergie des acquis de plusieurs sciences de l'homme que la bioéthique contemporaine intègre dans sa démarche. La biologie médicale, la psychiatrie, une anthropologie philosophique d'inspiration personnaliste, une théorie juridique des droits de l'homme, mais aussi et surtout un discours théologique. Alexandre Ganoschi, théologien catholique d'origine hongroise, a longtemps enseigné à l'Institut catholique de Paris. Il a enseigné la théologie dogmatique, mais également aussi à l'Université de Würzburg. Il est en dialogue avec des représentants des sciences de la nature. Voici un passage intitulé « Résurrection dans la mort ». L'idée qu'une mort puisse avoir une vie nouvelle se heurte tellement à l'expérience générale que déjà l'apôtre a dû recourir à deux analogies pour la rendre crédible. Selon la première, le ressuscité est comparé à une personne endormie qui se réveille et qui se lève pour quitter son lit. Selon la seconde, son état nouveau est assimilé à celui d'un végétal qui se transforme en passant de la graine à la plante. Dans les deux analogies, l'accent est mis sur l'identité du sujet. Le ressuscité ne devient pas quelqu'un d'autre, il reste, malgré la transformation radicale de son existence, la même personne connaissant, voulant, éprouvant les sentiments qu'il a éprouvés auparavant pour montrer en quoi son état sera différent. Paul affirme, on sème un corps psychique, il ressuscite un corps pneumatique. Voyons dans la première aux Corinthiens, chapitre 15. Le corps soma désigne l'homme dans sa totalité de sujet vivant. Avant sa mort et sa résurrection, son état était déterminé par ses fonctions vitales que Paul appelle psychiques et nous dirions biologiques. C'est en effet la psyché, le souffle vital, qui a rendu possible sa manière d'exister. En vertu de sa résurrection, son existence devient tout autre, parce qu'elle est désormais animée par l'Esprit Saint, lui conférant une nature pneumatique. »
mon tour, je vous présente un livre dont la Bibliothèque diocésaine de Chartres vient de faire l'acquisition, dont le titre est « Propos intempestifs de la Bible sur la famille ». Un livre de Philippe Lefebvre paru en octobre 2016. Vous me direz, encore un livre qui traite des retombées du synode sur la famille et de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Oui, mais ici le ton est suffisamment original pour que ce livre puisse être lu avec un intérêt tout spécial. Donc Philippe Lefebvre est prêtre dominicain, docteur ès lettres et docteur en théologie. Il enseigne l'Ancien Testament à l'Université de Fribourg en Suisse, ainsi qu'à l'École biblique de Jérusalem. Il a déjà écrit de très nombreux livres, dont quelques-uns vous ont déjà été présentés à cette antenne. Je pense par exemple à Joseph, l'éloquence d'un taciturne, enquête sur l'époux de Marie, que je vous avais présenté il y a quelque temps, mais aussi beaucoup de livres et d'articles consacrés au thème de la famille, justement, et du rapport homme-femme. Je signale au passage que Philippe Lefebvre dirige aussi la prestigieuse collection Lectio Divina aux éditions du CERF. Donc ce livre-ci a une originalité qui tient bien sûr à la lecture de la Bible comme source de réflexion sur la famille. Mais c'est aussi une leçon magistrale sur la manière de lire la Bible et les Saintes Écritures pour en faire une source féconde pour la vie de l'Église, pour éviter les stéréotypes, pour éviter la lecture fondamentaliste ou les théories bâties artificiellement en prenant un petit extrait de texte choisi habilement pour avoir gain de cause dans une polémique. Donc l'auteur privilégie une lecture assidue et complète de toute la Bible, mais travaillée en groupe de réflexion, en groupe de parole, véritable laboratoire de pensée et stimulant pour l'intelligence des Écritures sous une forme qu'il appelle les ateliers de la parole. De cette méthode de lecture, beaucoup de prises de conscience ont surgi en ce qui concerne la famille. D'abord, que la Bible est pleine de contradictions et de paradoxes, et que ces apparentes difficultés sont justement là pour nous déplacer, nous obliger à réfléchir et à avancer dans une interprétation toujours vivante, toujours reprise et adaptée au réel. L'auteur prend dans ce livre la comparaison avec la parabole des talents. Il dit que lire la Bible, c'est faire fructifier un capital de départ, et que les lectures étroites ou figées risquent de stériliser ce dépôt sacré que l'on finit par rendre tel qu'on l'a reçu au Créateur, sans qu'il nous ait été de quelque utilité. Donc, plutôt en acceptant de faire travailler le texte avec ses contradictions, donc sans rien rejeter, on comprend que rien n'est absolutisé dans la Bible et dans l'application des lois, par exemple Moïse, qui reçoit le commandement pour Israël de ne pas conclure de mariage avec des peuples d'autres religions, un commandement bien strict, et pourtant lui-même a épousé une femme étrangère d'origine madianite. Ou encore l'exemple de Ruth, la Moabite, peuple ennemi, eh bien elle va quand même épouser Boaz, qui est un ancêtre de Jésus. Il en est de même pour les règles morales, nous dit l'auteur, comme l'interdit de la prostitution. Eh bien pourtant, Rahab, la prostituée, celle qui aida Israël à entrer en terre promise, elle en fut récompensée en intégrant le peuple d'Israël, jusqu'à elle aussi se retrouver dans la généalogie de Jésus, une prostituée, arrière-grand-mère de Jésus. Donc l'enjeu de la Bible est d'avoir Dieu comme partenaire de réflexion et de débat. Et je vous lis un passage où Philippe Lefebvre parle de cela. Voici ce qu'il dit. « J'ai entendu l'autre jour une magnifique conférence sur la famille devant un auditoire catholique convaincu. Tout y était objectivement parfait. L'évidence de la famille comme groupe humain fondamental, l'importance des parents, la vie comme don, etc. Mais, dit-il, quelque chose manquait. J'ai donc réfléchi pour comprendre, comme dit le psaume 73, et j'ai trouvé. Il ne manquait qu'un détail, Dieu. Donc l'auteur veut mettre en évidence l'importance de l'intervention de Dieu dans nos vies, parce que c'est par rapport au Créateur que les êtres trouvent leur identité, et pas par rapport au fonctionnement un peu tournant rond de nos institutions. Et en se reliant à Dieu, cela rend les hommes libres d'emprunter des chemins nouveaux dans le cas où c'est nécessaire. Et heureusement, dit-il, que Marie a osé obéir à Dieu directement, sans passer par la soumission traditionnelle à son père, à son fiancé ou au rabbin. Où en serait-on si elle avait obéi aux règles? Mais non, elle a réfléchi seule et elle a accepté le risque, dont on n'a pas toujours conscience, qui est de passer pour une prostituée aux yeux de son peuple en portant un enfant hors mariage. C'est totalement interdit, évidemment, dans la loi d'Israël. Et le Christ ne serait pas venu parmi les hommes s'il n'y avait pas de place pour le nouveau, l'inattendu de Dieu dans notre monde. Voilà, donc bref, vous comprenez que dans ce livre, Philippe Lefebvre soutient le point de vue du pape François sur l'importance de la miséricorde. Il n'y a pas refus de la tradition, mais souci d'appliquer la justice avec miséricorde, en laissant la porte ouverte aux exceptions, en restant attentif aux différentes situations avec discernement. Et je termine avec une dernière citation. Voici ce qu'il dit. « Nous apprenons de la tradition, bien sûr. Elle constitue, au fil de l'histoire de l'Église, de grands axes de pensée qui nous orientent et nous dirigent. Il n'en reste pas moins vrai qu'il nous revient de continuer à penser, à faire la part des choses, à peser le pour et le contre concernant certaines idées. » Voilà donc un rapport à la famille libre et miséricordieux. Je vous rappelle le titre de cet excellent petit livre, « Propos intempestifs de la Bible sur la famille » de Philippe Lefebvre, paru aux éditions du Cerf en octobre 2016 et que vous pourrez trouver à la bibliothèque diocésaine de Chartres, rue Saint-Aimant. Voici donc le Père Willem qui vous présente son deuxième ouvrage.
Sur les chemins du serviteur de Gilles Rebès, paru aux éditions de l'Atelier au mois de mars 2017. Ce sont des méditations d'évangile au carrefour de la diaconie. Comment se mettre au service de l'autre pour un chrétien? Que signifie servir son frère? Ce livre invite, avec l'évangéliste Luc, à méditer sur la figure du serviteur et à tracer une géographie spirituelle de la diaconie. Gilles Rebès questionne l'acte du service et du don de soi à partir de 4 textes bibliques qui sont aussi 4 chemins. celui emprunté par les pèlerins d'Emmaüs, qui tardent à reconnaître Jésus marchant à leur côté, celui parcouru par le diacre Philippe, qui, croisant un homme sur la route de Gaza, sait se rendre disponible à son cheminement intérieur, celui de Jéricho, au bord duquel un Samaritain trouve un homme blessé. Selon Damas, c'est loin. Il faut aller à Damas. À Damas, qui mène Paul à la conversion. Voilà quatre chemins, car c'est en cheminant qu'on devient serviteur. Et Gilles Robèche a fait un travail remarquable dans ce diocèse du Var. Il a donné une tonalité franchement évangélique à ce diocèse qui pourrait se crisper sur le traditionnalisme. Il a inventé des chemins de rencontre avec de nombreuses personnes. Il est parvenu à susciter chez elles le désir de servir comme il le fait. C'est une diaconie étendue, élargie et qui se veut universelle.
Je vous parle à présent d'un livre paru en septembre 2016 aux éditions Fayard, écrit par deux auteurs, Jacques Attali et Pierre-Henri Salfati, et dont le titre est « Le destin de l'Occident, Athènes et Jérusalem ». C'est un livre ambitieux qui, en 200 pages, donc pas très gros, veut résumer toute l'histoire du monde, l'expliquer et donner des conseils pour résoudre les problèmes pour l'avenir. Donc, je pense qu'il n'y a nul besoin que je vous présente Jacques Attali, ce touche-à-tout hyperactif, qui est auteur déjà de plus de 66 livres de tout style, il en fait au moins deux par an. Par contre, son co-auteur, Pierre-Henri Salfati, est un peu moins connu. Alors, c'est un homme de médias, il est scénariste et réalisateur de nombreux documentaires pour le cinéma et la télévision. Il s'intéresse, donc il est juif bien sûr, il s'intéresse au Talmud, il a fait un livre d'ailleurs d'initiation au Talmud, et il enseigne la philosophie juive. On ne sait pas où, on n'en dit pas plus à son sujet. Je sais qu'il est actuellement invité comme référent juif dans l'émission Islam à la télévision, et aussi par José Eisenberg dans les émissions du judaïsme le dimanche matin. C'est donc à la fois un homme très discret et quand même une personne publique. Alors, ce livre à deux voix se présente lui-même, donc sur la page de couverture, comme, je cite, « une sorte de psychanalyse de la civilisation occidentale pour dévoiler et assumer ses secrets de famille ». Alors, il faut quand même bien entendre que dans cette idée de secrets de famille, ne nous cachons pas que se glisse la dénonciation d'un complot contre la pensée juive et que les deux auteurs semblent en fait régler dans ce livre de vieux comptes avec le christianisme. C'est de bonne guerre, il faut bien le reconnaître. Mais on peut regretter que cela fasse à grands traits des schémas brossés un peu trop simplificateurs. Par exemple, comment se satisfaire d'une relecture de la vie de Jésus, de la vie et la mission de tous les apôtres, de la naissance de l'Église, de toute son histoire jusqu'à nos jours, ainsi que la synthèse de toute la théologie chrétienne, tout cela en environ 30 pages. Maximum. Donc ce résumé laisse un arrière-goût, disons, d'approximation ou de choix un peu arbitraire. Ce qui ne veut pas dire que les thèses des auteurs manquent d'intérêt. Il faut quand même voir que derrière, il y a une idée intéressante, celle que la pensée grecque et la pensée juive ne doivent pas être opposées. Historiquement, elles ne se sont pas opposées, mais ont au contraire dialogué et construit ensemble un système de valeurs, celui qui a engendré la civilisation occidentale. En fait, l'essentiel de ce livre est l'exposé historique de ce dialogue judéo-grec, ces échanges qui ont eu lieu à travers les siècles. Il nous dit donc que le judaïsme a contribué en apportant la foi au Dieu unique et une éducation morale de l'humanité fondée sur l'altruisme. La culture grecque, par contre, elle a pourtant recherché, elle aussi, une unité, mais plutôt dans une compréhension unifiée du monde par la raison et par la science. Et les deux cultures, juive et grecque, s'harmonisent autour d'une utopie un peu sociale, valorisant la liberté individuelle, le développement de la raison, des connaissances et l'organisation politique démocratique, avec l'idée de l'amélioration de la vie humaine, tant matérielle que morale. Voilà, donc ils décrivent un beau consensus dans lequel tout d'un coup apparaît le méchant christianisme qui vient censurer et interdire l'intelligence, disent-ils, au profit de la seule foi. Évidemment, ils citent l'Inquisition et toutes les dérives qui ne sont évidemment pas fausses. Jusqu'à aujourd'hui, heureusement, ou disent-ils, l'Église semble faire son mea culpa et admettre l'importance de la pensée. Mais il faut attendre la page 205, donc la fin du livre, pour avoir une citation du pape Jean-Paul II qui dit « La foi privée de la raison tombe dans le grand danger d'être réduite à un mythe ou à une superstition. » Donc toute la démonstration des auteurs n'est pas fausse, mais elle est, à mon sens, incroyablement caricaturale. C'est du prêt-à-penser vraiment très rudimentaire qui demanderait maintenant à être réinterprété, disons par quelques intellectuels chrétiens, par exemple. Cela dit, il y a eu effectivement un oubli de la filiation du christianisme par rapport au judaïsme. C'est une prise de conscience relativement récente. Et les derniers papes ont impulsé un mouvement de reconnaissance du judaïsme et un rapprochement très significatif. Mais justement, la rédaction de ce livre montre bien que les relations judéo-chrétiennes sont encore très loin d'être clarifiées. Des deux côtés, il faudra encore faire des efforts de meilleure compréhension. En tout cas, le livre ne s'arrête pas à ça. Il y a encore la dernière partie, très courte, une lecture des problèmes de notre monde moderne et des risques qu'il y a à voir disparaître la civilisation occidentale. Donc 8 pages pour ce programme. Plus, après ça, une page pour vous donner les solutions. J'ai l'air de me moquer, mais pourtant, le tableau brossé n'est pas sans intérêt, car on y retrouve en très bref les grandes questions d'aujourd'hui. Que faire de la généralisation planétaire? Le marché économique et financier mondial ne va-t-il pas prendre le dessus sur l'organisation démocratique des pays? La liberté triomphante n'engendrera-t-elle pas l'égoïsme, la cruauté du chacun pour soi? Les migrations des populations pour cause politique ou climatique ne vont-elles pas déséquilibrer, voire anéantir l'Occident? Le développement des sciences va-t-il modifier l'humanité jusqu'à la robotiser? L'unité politico-économique du monde ne va-t-elle pas engendrer un totalitarisme qui finalement va tuer la liberté? Enfin bref, ils vous font un catalogue des questions urgentes. Il y a de quoi réfléchir dans ces quelques pages. Il y a aussi donc à réfléchir dans l'unique page de solutions proposées par les auteurs, dite solution judéo-grecque, qui est l'altruisme rationnel. Alors, il faut comprendre, dans l'altruisme rationnel, donc une orientation positive du monde à venir, qui est un mélange d'éthique, du rapport à l'autre, et combiné avec la logique systématique de la pensée grecque. Donc, c'est très ébauché à la fin du livre. Je pense que tout le travail sur l'altruisme rationnel est maintenant à développer. Enfin, je vous rappelle le titre de ce livre, qui n'est quand même pas sans intérêt ni sans utilité. « Le destin de l'Occident, Athènes et Jérusalem » de Jacques Attali et Pierre-Henri Salfati, paru chez Fayard en 2016, en septembre. Je profite de quelques secondes d'antenne encore pour vous signaler ou vous rappeler que le 18 et 19 mars aura lieu la braderie de la bibliothèque diocésaine, donc rue Saint-Aimant à Chartres. Il y a beaucoup de livres qui seront proposés à la vente à des prix défiant toute concurrence. Je vous dis à présent au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.